Bien, bonjour à tout le monde. Nous sommes ravis de voir une salle qui est aussi pleine pour notre 16e saison des cafés scientifiques qui commence aujourd'hui. Donc je vous rappelle que nous avons commencé en 2000, donc 2016, ça fait la 16e saison. Toujours autant de monde, donc ça nous fait très très plaisir. Juste deux mots pour vous introduire donc cette nouvelle saison qui va démarrer ce soir avec un café donc sur le sommeil qui va démarrer dans quelques instants. Dans un mois, il y aura un café sur le granier. Donc va-t-il s'écrouler? Va-t-il ensevelir Chambéry? Bien entendu, ça ne sera pas uniquement ça, hein, ça sera les risques en pays de montagne que l'on peut courir. Au mois de décembre, ça sera un film au cinéma Lastré qui est encore à définir. Au mois de janvier, un café sur la violence. Février, de nouveau un film. Mars, l'art et la science, quel dialogue. Et puis le dernier café, donc ensuite encore un cinéma, si je ne me trompe pas, le dernier café au mois de mai sera sur l'archéologie, quoi de neuf. Donc nous redémarrons cette année avec l'aide de la ville de Chambéry et puis de l'université de Savoie, Mont-Blanc, hein, qui nous subventionne un petit peu, ce qui nous permet de tourner. Donc si vous voulez participer aussi au café, nous aider, ben, contactez-nous, hein, on accueille des gens pour nous aider à organiser ces soirées. Et puis voilà, on va commencer, je vous souhaite une très très bonne soirée, et merci encore de votre présence. Ah oui, donc Bernard me fait remarquer, le plus facile pour nous contacter, c'est soit ce soir, soit au contraire, et en complément, par Internet.
Une possibilité, c'est de me donner votre mail, et comme ça je vous mets sur le listing de l'association. Vous recevez une fois par mois le thème du café du mois, et une fois par an, on vous envoie le programme complet.
Bien, bonsoir. Donc, rebonjour à tous ceux qu'on connaît déjà. Ce soir, sur le sommeil, j'ai choisi des intervenants, interpellés tous professionnellement par la question. Ils vont se présenter d'eux-mêmes. Et puis, comme d'habitude, vous pourrez poser vos questions, toujours dans le micro, puisque tout est enregistré. Et dans la salle, donc, vous levez le doigt. Pierre qui passe un micro, de l'autre côté, Audrey, voilà. Donc je passe. Alors pour ma part, donc Philippe Gontier, psychiatre à Chambéry.
Il faut pas les croiser. Catherine Morel, je suis médecin du travail depuis 30 ans sur Chambéry. J'ai travaillé dans des grosses entreprises et maintenant je suis en service inter-entreprise.
Bonsoir à tous. Donc moi Nicolas Juvenet, donc je suis médecin psychiatre et médecin du sommeil dans la banlieue lyonnaise, en fait, dans l'est de Lyon.
Bonsoir, Igal Attal, je suis médecin généraliste à Chambéry et je pratique l'hypnose médicale.
Charles Grimaud, je suis pharmacien à Chambéry.
Alors, juste un petit rappel, c'est le principe. Quand le thème est considéré comme médical, on évite de poser des questions personnelles aux médecins pour régler des problèmes de prescription ou autres. Voilà. Alors, micro, lève le doigt.
Bonsoir, c'est l'homme. Est-ce que vous pourriez me donner des explications d'abord sur les différentes phases du sommeil, comment ça fonctionne, et puis quelles sont les causes des insomnies et des somnolences aiguës?
Bon, alors, merci pour la question très large. On peut déjà effectivement faire un petit topo sur un petit peu la constitution du sommeil. Il ne faudra pas hésiter à me couper si je parle trop, du coup, parce que ça peut être long comme explication. C'est vrai qu'on entend souvent parler de phases, de stades, de cycles de sommeil. Donc, ils sont une réalité. Pour mettre un petit peu les choses de façon organisée, en fait, Pour simplifier, on peut partir du principe qu'il y a à peu près 3 stades différents de sommeil. Alors vous trouverez 3, 4, 5 en fonction des sources parce qu'on va subdiviser certaines phases, mais ça n'a pas forcément beaucoup d'importance en pratique. Donc vous avez ce qu'on appelle le sommeil long léger, le sommeil long profond et le sommeil paradoxal. En gros, c'est les 3 principaux types de stades de sommeil. Donc sommeil lent léger qui correspond à un premier ralentissement de l'activité cérébrale, avec un sommeil du coup qu'on dit léger, donc un peu superficiel. C'est ce sommeil dont on se réveille facilement au moindre bruit, et puis aussi assez facilement quand le réveil sonne et qu'on arrive à émerger facilement. Vous avez le sommeil lent profond, donc qui correspond à un type de sommeil un petit peu, enfin beaucoup plus approfondi, puisqu'en fait c'est le moment normalement dans notre existence, à part le moment définitif de la mort, où le cerveau va être vraiment le plus ralenti en termes d'activité. Donc c'est pour ça qu'on parle de sommeil lent profond, voilà, avec un grand approfondissement du sommeil. C'est en général dans cette période-là qu'on est le moins facilement réveillable, et surtout dans cette période-là où quand le réveil va sonner, on va mettre beaucoup, beaucoup de temps à émerger. Le troisième type de stade, donc, c'est le sommeil paradoxal, qui, comme son nom l'indique, constitue en fait un paradoxe, puisque c'est un moment où dans le sommeil, on va avoir une activité cérébrale aussi riche qu'à l'éveil. Donc c'est ce que je dis toujours, en général en unité de sommeil, quand on enregistre le sommeil d'un patient au niveau neurologique, pendant le sommeil paradoxal, si moi je n'ai que les paramètres de l'activité cérébrale, je suis incapable de faire la distinction entre l'éveil et le sommeil paradoxal. On a besoin en fait d'autres paramètres, l'activité des yeux, l'activité musculaire, etc., pour savoir que c'est bien du sommeil et non pas de l'éveil. Et c'est pour ça qu'on parle de sommeil paradoxal, puisque quand Michel Jouvet avait découvert ça chez le chat dans les années 60, un Lyonnais, il avait du coup réalisé que ça constitue un sacré paradoxe quand même d'avoir autant d'activité dans un stade de sommeil. Donc il avait appelé ça le sommeil paradoxal. Au jour d'aujourd'hui, si vous cherchez dans des sources françaises, vous trouverez sommeil paradoxal. Au niveau international, on est les seuls à utiliser ce terme, puisqu'on l'avait inventé, mais qu'il n'a pas été repris par la suite. Au niveau international, on appelle ça le stade REM. Donc REM, c'est un acronyme anglais, REM, pour Rapid Eyes Movement, parce qu'en fait, c'est un stade de sommeil où on va avoir une activité oculaire très, très riche et très rapide. Voilà. Voilà, donc vous avez 3 principaux stades et en fait c'est l'enchaînement de ces stades qui constitue un cycle de sommeil. Et on estime en général que le sommeil chez l'homme est constitué, un bon sommeil, une bonne nuit est constitué de 4 à 6 cycles d'environ 90 minutes, ce qui correspond à peu près aux 6h30, 8h qu'on retrouve en moyenne dans la population. Voilà. Pour la constitution.
Le reste de la question, c'était sur les causes de l'insomnie et de la somnolence aiguë.
Waouh. Si je vous dis toutes. Non, en fait, c'est une question forcément hyper intéressante, mais c'est ce qui constitue toute la complexité de la médecine du sommeil, c'est que beaucoup de pathologies du sommeil ne sont pas de vraies maladies du sommeil. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'anomalies dans le sommeil qui vont plus être la conséquence d'autres troubles que de vrais troubles du sommeil. Donc c'est vrai que vous avez des maladies du sommeil à part entière. Hein. Dans l'insomnie, vous avez par exemple une insomnie qu'on appelle l'insomnie fatale familiale, qui est une insomnie génétique, d'évolution forcément mortelle d'ailleurs, qui est extrêmement rare. Hein. Moi, j'en ai jamais croisé. Statistiquement, il est probable que je n'en croise jamais. Et si vous n'avez pas d'antécédent dans la famille, vous êtes tranquille. Ça, c'est une vraie maladie du sommeil. Mais la plupart du temps, par exemple, dans l'insomnie, on va retrouver des facteurs psychologiques, de la dépression, de l'anxiété, des soucis à un moment donné. On peut aussi retrouver beaucoup de maladies, toutes les maladies, par exemple, qui entraînent de la douleur, vont forcément, par définition, entraîner des troubles du sommeil. Vous avez aussi les habitudes de vie. Donc, par exemple, le fait de faire des écrans trop tard, de faire de la tablette, de travailler de nuit. Voilà, vous avez plein de causes d'insomnie. En fait, c'est extrêmement riche. On pourrait y passer toute la soirée, que j'aurais pas le temps de toutes vous les donner. Et du coup, pour la somnolence, donc, qui correspond en fait à un excès de besoin de sommeil, hein, ces gens qui dorment éventuellement correctement la nuit, mais qui restent somnolents la journée, c'est-à-dire qui en fait ne sont jamais rassasiés de leur besoin de sommeil, qu'on appelle aussi souvent l'hypersomnie ou l'hypersomnolence, donc c'est l'inverse de l'insomnie, on est exactement dans le même contexte. C'est-à-dire que vous allez avoir énormément de pathologies ou même d'hygiène de vie qui peuvent être à l'origine de ça. Et puis, vous avez quand même une petite proportion de vraies maladies du sommeil qui peuvent être à l'origine. La plus célèbre, c'est vraiment pas la plus fréquente, mais la plus célèbre dont on entend souvent parler, c'est la narcolepsie, voilà, qui est une forme de besoin de sommeil excessif. En gros, je peux difficilement répondre vraiment de façon exhaustive à votre question. Mais...
bonsoir. J'ai souvent entendu dire, alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, que le sommeil permettait d'enregistrer ce qu'on avait fait durant la journée, qui permettait de mieux mémoriser. Et paradoxalement, des fois aussi, on entend que des personnes qui ont une très bonne activité mémorielle dorment très peu aussi. Et certains, entre guillemets, grands hommes, grands chercheurs, disent qu'ils dorment très peu et qu'ils se consacrent plus à la recherche. Alors, est-ce que c'est possible d'enregistrer des informations en ayant très peu de sommeil? Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qui se mettent en place ou, enfin, voilà.
Bonsoir, merci. Alors, il n'y a pas forcément de lien démontré entre... si je reprends un peu votre question, si je l'ai bien comprise, il n'y a pas forcément de lien démontré entre des aptitudes un peu supérieures et un besoin de sommeil, réduit par rapport au reste de la population. Il faut surtout partir du principe que les besoins de sommeil sont extrêmement variables d'un individu à l'autre. Ça, c'est clair. Ils sont difficilement prévisibles aussi, même sur des facteurs familiaux. Quand même, on retrouve en général des besoins de sommeil par agrégation familiale, on va dire. C'est-à-dire qu'en général, quand dans la famille, vous avez que des grands dormeurs et des gens plutôt du soir, vous avez peu de chances d'être court dormeur et d'être du matin, hein, parce qu'il y a quand même des facteurs génétiques. Mais globalement, les besoins de sommeil varient énormément d'un individu à l'autre. Ça, c'est clair et net. Donc, on a l'habitude de dire que, ce qu'on pose souvent la question, combien de temps faut dormir? Alors moi, je réponds souvent 7 heures, 22 minutes, 33 secondes et 5 dixièmes. Parce qu'il n'y a pas de réponse possible. Le seul temps de sommeil dont vous avez besoin est déterminable, c'est celui qui vous permet d'être reposé et en bonne santé. Et je précise en bonne santé, pas que reposé. Parce que le sommeil, ce n'est pas que du repos, loin de là. Partant du principe que c'est extrêmement variable, vous avez une grande partie de la population qui va dormir entre 7 et 8 heures par nuit, et vous allez effectivement toujours trouver des individus qui, avec 5 heures, 5 heures et demie de sommeil, sont plutôt bien. On peut même être dans des temps encore inférieurs. Il y a effectivement des personnalités célèbres dont on entend dire qu'ils ne dormaient que 3 heures par nuit, par exemple, pour faire allusion à un certain... responsable belliqueux, on va dire. Déjà, on n'a pas forcément la certitude de tout ça, parce qu'il faut beaucoup se méfier aussi de ce qu'on pense, de ce qu'on dit, pardon. Je pense notamment au fait qu'il est très très difficile d'estimer le temps de sommeil. On retrouve en général, quand on enregistre les gens, toujours un temps très très différent de ce qu'on estime dormir, souvent d'au moins une heure et demie la plupart du temps. Si à la limite je peux prendre un parallèle, parce que sur les grands hommes d'une façon générale j'ai pas trop d'infos, mais par exemple il est démontré que les grands sportifs en général dorment plus que la moyenne, donc ça irait plutôt dans l'autre sens, au moins pour les aptitudes physiques. Quand vous prenez les heures de sommeil déclarées des grands sportifs actuels, sur internet vous trouvez, il y a des tableaux qui se diffusent pas mal là-dessus, parce que justement qui font la promotion de l'intérêt du sommeil dans l'entraînement, ce qu'on appelle l'entraînement invisible en fait dans le sport de haut niveau. Vous avez l'entraînement visible, le fait de vous entraîner physiquement, et l'entraînement invisible, l'alimentation, l'hygiène de vie et notamment le fait de prendre soin de son sommeil. Et ben vous apercevez que le temps de sommeil semble être un élément hyper important de cet entraînement invisible, et finalement la moyenne de sommeil des grands sportifs, des sportifs de haut niveau, elle est plutôt supérieure à la population générale. Je réponds plutôt sur l'aspect sportif, mais sur l'aspect intellectuel, encore une fois, il n'y a pas de lien démontré entre temps de sommeil et aptitude. Effectivement, il y a la mémoire, merci, oui, il y avait aussi l'idée de la mémoire. Le sommeil est indispensable au bon fonctionnement de la mémoire, ça c'est clair et net. On peut quand même mémoriser des choses sans bien dormir, c'est possible, mais on les mémorisera forcément moins bien, parce que vous avez raison, on retraite une grande partie des informations de la journée pendant le sommeil. Donc la difficulté, c'est qu'on a plusieurs types de mémoire. Donc ça complique un petit peu la réponse, parce que je vous parlais des différents stades de sommeil. Pendant longtemps, on s'était dit ça doit être pendant le sommeil non profond ou ça doit être pendant le sommeil paradoxal. Donc il y avait des équipes qui se battaient pour une hypothèse, d'autres pour l'autre, qui avaient des preuves pour l'une, pour l'autre. En fait, on s'est aperçu que ça marchait pour les deux. C'était juste que c'était pas pour le même type de mémoire. Voilà, vous avez ce qu'on appelle les mémoires épisodiques qui correspondent à la mémoire d'événements de vie personnels. Vous avez la mémoire sémantique qui correspond en gros à la culture générale. Vous avez la mémoire procédurale qui correspond à tous les automatismes qu'on a, le fait de faire du vélo, de passer des vitesses. Et en fait, partant de ces différents types de mémoire, les différents stades de sommeil ont des rôles pour certains types de mémoire. Donc c'est important, le fait de bien dormir avant, d'essayer de mémoriser quelque chose et de bien dormir après l'avoir mémorisé permet de mieux conserver les informations. Après, les travaux montrent quand même que ce n'est pas complètement indispensable non plus. C'est-à-dire que si vous dormez mal ou si vous vous passez de sommeil dans cet intervalle de temps, vous arriverez quand même à mémoriser. Moins bien, mais vous mémoriserez quand même. Donc, il semblerait que le sommeil ait un intérêt dans, on va dire, dans le processus, mais qu'il ne soit pas totalement indispensable.
Bonsoir et merci d'être là. Vraiment, ça nous fait très plaisir. Je voulais vous poser une question. Une au psychiatre et une probablement au pharmacien. Est-ce que dans la panoplie des médicaments prescrits par un psychiatre, les somnifères font partie de celles que vous prescrivez, des médicaments que vous prescrivez? Ça, c'est pour le psychiatre. Et quant au pharmacien, est-ce que la sérotonine, quelle est l'action de la sérotonine qui est très en vogue en ce moment? On dit qu'il faut prendre la sérotonine lorsqu'on a des insomnies légères. Voilà.
Alors, comme réponse, d'abord, la question de la demande des patients. Alors, est-ce que les psychiatres prescrivent beaucoup les somnifères? Sont surtout les généralistes qui sont en première ligne de la prescription. Ensuite, tout dépend de... Non, mais c'est le fait. Après, en fonction de la pratique du psychiatre, bien sûr, c'est une demande fréquente. Les troubles du sommeil sont fréquemment le motif de consultation, parce que quand on ne dort pas ou quand on a mal quelque part, en général, on ne diffère pas de plusieurs mois une consultation. Alors, la réponse, c'est que si ce soir j'ai invité ces intervenants, c'est qu'on a depuis un certain temps conscience que la prescription de somnifères, qui était assez systématique, a montré ses dangers de dépendance psychologique. Alors, personnellement, ce n'est pas une chose que je fais en première intention. On est beaucoup plus confronté au fait de personnes qui prennent des somnifères et depuis parfois fort longtemps, bien que les recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui nous sont connues depuis des années, limitent, avec une phrase qui est assez significative, les somnifères ne sont pas le traitement adapté des insomnies chroniques. Donc ça devrait être une prescription ponctuelle, exceptionnelle, puisque bien évidemment on ne peut pas considérer que plusieurs nuits d'insomnie soient tolérables par qui que ce soit. Ensuite, le recours aux somnifères. Alors là, je passerai la parole aux catégories de médicaments, parce qu'il n'y a pas que les somnifères. On peut parler des plus célèbres, qu'on appelle les e-drugs aux États-Unis, Zopiclone, Zopidem, ce n'est pas de la pub pour les labos. Il y a une grosse demande, et on peut prescrire aussi, quand on veut prescrire, d'autres psychotropes qui peuvent permettre l'endormissement sans être des somnifères. J'ai moins de son. Ensuite, la question de est-ce qu'on peut prescrire, est-ce qu'on doit prescrire, c'est justement l'intérêt de faire l'information aussi sur quels sont les troubles d'endormissement. La demande essentielle est bien sûr je ne dors pas, qu'est-ce que je peux faire pour dormir? La réponse, ce n'est pas forcément de prescrire. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, dans les prescriptions, je crois qu'il y a une évolution aussi dans le mode de prescription, puisque comme dans l'argumentaire que certains ont peut-être lu là, dans la présentation de la soirée, il y a le problème des troubles du sommeil, ça touche peu ou prou 30% de la population, isolée, chronique, quelle qu'en soit la sévérité. Ensuite, il y a le fait qu'on consomme énormément de psychotropes dans notre pays par rapport à l'Europe, là ça se modifie un petit peu, mais il y a une habitude de consommation chimique, française, assez reconnue dans les études. Puis alors, pour ce qui est de la réponse du psychiatre, ça rejoint un peu ce que Nicolas disait, dans les causes de l'insomnie, il y a une particularité, c'est qu'on considère qu'il y a, et toutes les causes, beaucoup de causes d'insomnie qui sont dans le champ de ma spécialité. C'est-à-dire, il est connu depuis longtemps que, par exemple, troubles du sommeil, insomnie, hypersomnie étant plus rare, insomnie et dépression, par exemple, c'est très fréquemment lié. Dans la recherche actuelle, on se pose une question extrêmement intéressante. Est-ce que c'est la dépression qui entraîne l'insomnie ou l'insomnie qui entraîne la dépression? Ensuite, il y a dans les causes donc à traiter, et puis il y a les troubles anxieux qui font que, comme on le disait, dans l'endormissement, les ruminations anxieuses, là aussi, c'est une cause. Alors, est-ce que la prescription d'autres médicaments que les somnifères pour traiter idéalement, chimiquement, je précise toujours, la pathologie principale, c'est par exemple pas forcément en donnant un somnifère, surtout pas au long cours, qu'on traite la cause. On voit qu'en traitant certaines pathologies et troubles du sommeil qui s'améliorent sont le premier signe d'ailleurs de l'efficacité d'un traitement. Puis, alors, dernière chose avant de passer la parole à mon collègue pharmacien, c'est qu'il y a aussi une autre demande qui se formule sous la forme « Pourquoi les gens veulent-ils dormir ?» Et ce n'est pas simplement réparer une insomnie, qui est un bon classiquement, je ne dors pas, il est déjà telle heure, demain je travaille, enfin plein de choses qui rendent l'endormissement difficile. Il y a aussi une demande. J'aimerais, quand on est dans une dépression, dans une souffrance quelle qu'elle soit, je voudrais dormir, faites-moi dormir. Pourquoi ? Parce que ben, pendant que je dors, je ne pense pas. Je ne souffre pas, je voudrais dormir. C'était l'idée dans plusieurs décennies, je voudrais aller dans une maison de repos, je voudrais faire une cure de sommeil. C'est aussi la demande de l'oubli et l'effacement de tout travail, toute réflexion pour abolir cette souffrance-là. Alors voilà à quoi on est confronté, nous, classiquement. Après, l'habitude de prescription, elle dépend aussi des moyens dont on dispose, la position qu'on a par rapport à la prescription systématique. Mais voilà. Donc, après, tu veux répondre sur les questions. Prends ton micro. Je ne peux pas te le prêter, le mien.
Alors, pour dire deux mots sur les hypnotiques, disons que ils sont quand même prescrits. Hein. Il faut savoir qu'il y a à peu près 50 millions de boîtes d'hypnotiques qui sont délivrés en France, de benzodiazépines, donc de tranquillisants. Et puis, il y a à peu près 5 à 6 millions d'hypnotiques qui sont donnés toutes les années. Donc, c'est quelque chose qui existe. Hein. On ne peut pas faire une... Après, de mon côté, je vous dirais quelque chose d'amusant, c'est qu'en fin de compte, souvent, les gens viennent en pharmacie nous dire, voilà, j'ai du mal à dormir, qu'est-ce que vous pouvez me donner ? Alors, d'abord, il y a un petit questionnaire léger qu'on fait, en général, de comptoir, vite fait, hein, sur le pouce. Et en fonction de la réponse, eh ben, on adressera tout de suite la personne au toubib. Ou alors après, quand ils sont retranchés, ils disent « Ah oui, non, mais je veux pas, des produits forts, je veux pas prendre l'hypnotique. » On peut les guider sur des produits plus légers, qui sont des produits de phytothérapie. Pardon, que vous connaissez sans doute, hein, après des produits d'aromathérapie, des produits d'homéopathie ou autres, comme le magnésium. Enfin, il y a des produits qui permettent de détendre. Et puis, comme disait le docteur Gontier, évidemment, on ne sait pas quel est le facteur enclenchant. Est-ce que c'est une déprime ? Est-ce que c'est... Et puis, tous les facteurs annexes qui peuvent être enclenchés. Donc, c'est quelque chose qui existe. Il y a un potentiel énorme, évidemment, pour les laboratoires. Mais ça traduit quand même un état de mal-être de la population. Quoi, hein, voilà. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu quand même une diminution de la consommation entre l'année 14 et l'année 15. Actuellement, bon, sur 16, on n'a pas fait le point, mais enfin, c'est peut-être dans la même tendance. Alors ça, c'est un bon pas, c'est un point positif. Bon, après, il y a toute une... Tu parlais d'un médiateur. Il y a toute une série de neuromédiateurs, hein, les catécholamines, enfin, la noradrénaline, adrénaline, la dopamine, la sérotonine. Et puis, il faut savoir aussi que pour traiter les gens, le fait de mal dormir, il y a différentes familles. Il y a des familles d'anti-allergiques. Les benzodiazépines... qui sont mis un petit peu de côté actuellement pour le sommeil parce qu'elles génèrent des problèmes d'accoutumance relativement importants. Le temps dans la journée peut être moins éveillé, peut être un peu plus conséquent. Et il y a des nouvelles familles qui sont sorties, dont le zolpidem, je crois que tu l'as cité tout à l'heure, là. Des produits à induction beaucoup plus courte, hein, et plus rapide, avec moins d'effets. Le zopiclone aussi un peu plus rapide, mais avec des effets un peu plus indésirables. Il y a des familles aussi d'antidépresseurs qui sont utilisés. Les antiallergiques, je ne sais pas si j'en ai fait état, mais il y en a, ça s'utilise ponctuellement avec des effets pour un qui est notoire, pour lequel il y a de la polémique. Hein, c'est la Tarax actuellement, hein, puisqu'il y aurait des contre-indications avec... disons qu'il y aurait, des risques à l'utiliser en cas d'association à certains produits, et puis pour le cœur. Et puis il y a d'autres familles qui sont plus rarement utilisées. Enfin, les principales familles sont celles-ci. Quoi. Voilà.
On peut peut-être ajouter à ce propos de d'hormones, c'est quelque chose qui est, tout ça sera relayé, relativement récent, c'est l'hormone du sommeil, c'est-à-dire qu'il y a une sécrétion, l'état naturel d'hormone s'appelle la mélatonine. Hein, qui est le déclencheur du sommeil. Bon, après, tu préciseras sans doute dans quelle phase et à quel moment, parce qu'il y a maintenant il y a eu, bon, il y avait une recherche et maintenant il y a des médicaments qui sont sortis qui sont en fait de la mélatonine avec des doses particulières, des formes plus récentes, pour donner quelque chose présent à l'état naturel, mais qui fonctionnerait en dehors des actions indirectes, en renforçant en quelque sorte le stimulus d'induction du sommeil. On a parlé de benzodiazépine, je ne sais pas si tout le monde voit la catégorie, de parler de tranquillisants. La plupart des tranquillisants, donc anxiolytiques, puisque chez nous on classe anxiolytiques, enfin dans les psychotropes, les Américains ils ont tranquillisants majeurs, tranquillisants mineurs, ils n'ont pas la même classification, mais ça concerne à peu près tout ce que un tiers au moins des gens de la salle ont eu ou ont dans leur pharmacie pour eux-mêmes ou pour leur famille, c'est-à-dire tous les produits anxiolytique, tu l'as dit, benzodiazépine, c'est une classe de médicaments. Hein, alors, dans la limitation de prescription, il y a aussi un facteur, parce que je parlais des recommandations par rapport aux effets néfastes qu'on a découverts que bien plus tard, comme souvent, hein, une prescription largement faite. On est à l'université, on nous apprend, il faut faire comme ça, on fait comme ça. Et puis, des années après, les études épidémiologiques montrent les inconvénients. Et notamment, ce qui a pu freiner la prescription, c'est qu'on a fait des recommandations. Alors, les médecins généralistes pourront aussi répondre là-dessus. Recommandation de bonne pratique en médecine, c'est-à-dire de récompenser en quelque sorte, mais tenir compte de la pratique quotidienne en évitant de prescrire systématiquement certains produits, d'essayer de limiter justement ce qui a été pendant des années trop largement fait. Donc actuellement, on limite la prescription de ces médicaments qui étaient utilisés soit pour l'anxiété, soit préventive, soit au long cours, mal expliqué au moment de la prescription, pour en diminuer les conséquences à terme qui ont été découvertes. Ouais, il y a une dizaine d'années que vraiment on parle de l'incidence notamment épidémiologique avec, par le biais des troubles de mémoire qui sont tout à fait connus avec ces molécules sur justement, vous en reparlerez, spécialiste biologiste, hein, sur l'incidence notamment d'Alzheimer, ça a été évoqué aussi, d'une apparition épidémiologique bien plus fréquente chez les consommateurs au long cours de toutes ces substances qui étaient finalement... tiens, prends ça, avant le permis de conduire, ça va te détendre, t'es anxieux, ben prends des anxiolytiques. Donc c'est aussi la recommandation nationale, la réflexion dans la prescription. Hein. Quelque chose qui maintenant a plein de mises en garde, qui avec le recul sensibiliserait sûrement plus les gens si on leur dit, bon ben oui, pense que là, ce que tu fais, dans l'espérance de vie aussi diminuée pour les associations psychotropes. Donc c'est aussi un facteur de réduction de demande de la part des patients. Après, la réponse en fonction de la demande, ça, c'est individuel. Mais c'est vrai, la parole, médecin général.
Non, c'est vrai qu'il y a, bon, il y a des incitations, en effet, notamment de la Sécu, mais finalement, ça fait partie juste de la bonne pratique médicale. Donc, on ne devrait pas forcément avoir besoin de la Sécu pour ça. C'est vrai qu'après, il y a... sachant qu'il y a aussi des aspects plus économiques parfois que médicaux. Après, c'est vrai qu'il y a différentes classes. Et en première ligne, il y a souvent le pharmacien parce qu'on passe devant, on rentre et puis pour régler le problème de sommeil. Nous, on est souvent sur la première ligne médicale, les psychiatres secondairement du fait aussi des délais de consultation. Puis les patients n'ont pas forcément envie d'aller voir le psychiatre pour des problèmes de sommeil s'ils ne considèrent qu'il n'y a que ce problème. Il y a différentes classes de médicaments, en effet. Alors il y a tout ce qui est aromathérapie, phytothérapie, pour lesquels il n'y a pas de risque particulier. Il y a tout ce qui concerne en effet ce que tu as dit, tout ce qui est notamment l'atarax, tous les anti-allergiques, où en effet, souvent, c'est prescrit de manière un peu probablement légère, parce qu'on considère que ce ne sont que des anti-allergiques, mais qui posent le problème de toutes les interactions que vous allez avoir avec tous les médicaments que vous pouvez avoir pour votre tension, pour votre cœur, enfin, voilà, et qui sont des risques réels, notamment de troubles du rythme cardiaque. Il y a après, en effet, les benzodiazépines, pour lesquelles, donc il y a. Enfin, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais enfin, il y a le problème de dépendance, comme son nom l'indique, c'est le fait de ne pas pouvoir décrocher. Les fumeurs en savent peut-être quelque chose, et les consommateurs d'autres choses aussi. L'accoutumance, qui est que pour avoir le même effet à plus ou moins long terme, il faut monter la dose. Ce qui explique que des patients qui vont avoir tel traitement vont prendre un comprimé au début, deux ensuite, trois ensuite, puis dès qu'on arrive à la dose limite, on va passer sur une deuxième molécule, avec un premier comprimé, un deuxième, un troisième, etc. Et il y a aussi donc en effet les antidépresseurs pour lesquels, pour le coup, il n'y a pas de dépendance, pas d'accoutumance, même s'il y a des règles de prescription et d'instauration et d'arrêt, même si ça fait peur à beaucoup de personnes, parce que justement, on se dit, les antidépresseurs, c'est horrible, je ne suis pas déprimé, je suis... Voilà. Je crois que le problème majeur dans tout ça, c'est surtout de savoir, et c'était la question initiale, c'est quelle est la cause de l'insomnie ? Est-ce qu'en effet, c'est juste parce que... Il y a eu une rupture, il y a un examen qui arrive. Est-ce que la cause sont des douleurs dans le cadre de pathologies chroniques, de cancers, de rhumatismes ou autres? Et auquel cas, le traitement de l'insomnie va être le traitement de la cause et pas juste le traitement du symptôme. Le traitement du symptôme peut en effet aider parce que quand on n'a pas dormi pendant 10 jours, on n'en peut plus et qu'on est à cran et qu'il faut enchaîner ses journées de travail derrière. Mais ce type de traitement, à mon avis, n'est plutôt qu'un traitement juste ponctuel sur une semaine, 10 jours, 15 jours. En tout cas, il faut être en dessous des durées pour lesquelles il y a un risque de dépendance et derrière de prendre en charge la cause. Une fois que le diagnostic est posé, et puis après par différentes méthodes thérapeutiques ou médecine alternative.
Est-ce qu'il y a une égalité homme-femme face aux troubles du sommeil?
Merci pour cette question glissante. C'est hyper intéressant parce que il y a clairement une inégalité, mais si on recoupe toutes les pathologies, ça s'égalise. C'est-à-dire que pour prendre par exemple les deux pathologies les plus célèbres et les plus fréquentes, l'insomnie touche plus particulièrement les femmes que les hommes. Les apnées du sommeil, dont on n'a pas encore parlé, mais dont on parlera peut-être, donc qui correspond à ces gens qui ont des problèmes de respiration dans la nuit, qui s'arrêtent de respirer la nuit, c'est une pathologie qui touche préférentiellement les hommes. Donc comme ça permet de mettre la balle au centre. Globalement, il y a des spécificités de sexe en fait, probablement par le fait qu'il y ait des différences biologiques, des différences anatomiques pour les apnées notamment. Globalement, on s'aperçoit que, comme bien souvent en médecine d'ailleurs, quand on parle d'une pathologie, il va y avoir statistiquement l'un des deux sexes qui sera plus touché. Maintenant, on peut pas dire que par exemple les hommes soient spécifiquement privilégié par rapport au sommeil, parce que c'est vrai que l'insomnie, on le dit souvent et c'est vrai, l'insomnie touche plus particulièrement les femmes, mais encore une fois, les hommes sont plus touchés par d'autres pathologies. Je vous ai parlé de la narcolepsie par exemple tout à l'heure, les narcoleptiques sont majoritairement masculins. Donc on va dire qu'en fonction de la pathologie, vous allez avoir une tendance plus vers un sexe que vers l'autre, sans forcément que ça s'explique toujours d'ailleurs.
Bonsoir. Vous parlez de prendre soin en fait du sommeil. Ma question est aujourd'hui en fait avec nos modes de vie, que ce soit des horaires décalés, des horaires de nuit, etc. C'est de plus en plus difficile de faire les 4 ou 5 cycles de 90 minutes dont vous parliez. Donc est-ce que vous avez des pistes ou autres pour pouvoir en fait arriver à un sommeil plus réparateur, par exemple la sophrologie ou l'auto-hypnose? Et ma seconde question. Et également, j'ai entendu dire que finalement, notre sommeil d'une traite n'était pas un sommeil dit naturel, qu'on aurait plutôt un sommeil naturel coupé. Donc, est-ce que vous pouvez éclaircir la question?
Je réponds un petit mot sur la première partie. Je te laisse le reste parce que tu seras meilleur que moi. Et après, je reprendrai la parole sur tout ce qui est auto-hypnose ou autre. Juste une chose, quand on regarde en consultation, alors, je ne vous donne pas un résultat d'étude, mais ce qu'on vit au quotidien en consultation, le problème majeur, c'est pas tant le rythme forcément décalé, ça dépend des rythmes décalés, en effet, des personnes qui alternent jour-nuit, mais tu pourras me répondre mieux que moi là-dessus. C'est surtout, si on exclut toujours, pareil, quelle est la cause initiale, si c'est une dépression, si le problème est moral ou physique. Mais en dehors de tout ça, un des problèmes principaux par rapport à ça, c'est la façon dont on se couche finalement. Et la grande majorité, probablement d'entre vous ici, devrait se coucher en regardant son téléphone ou sa tablette avant de dormir. C'est à peu près sûr que vous regardez tous vos mails avant de dormir. Et on revient là-dessus, c'est le problème de se coucher en faisant une heure et demie d'écran avant. Aujourd'hui, j'exclus même la télévision, on est plutôt... et c'est essentiellement ce qu'on voit de plus en plus chez les enfants, notamment. Ils se couchent tous. Il faut savoir que 2 enfants sur 10 mettent leur réveil sur leur téléphone la nuit pour envoyer des SMS à leurs copains à 2h du matin. D'accord ? Ils dorment. Ils mettent leur réveil juste pour envoyer leur message à leurs copains pour savoir s'ils dorment. C'est les dernières études, 2 sur 10 quand même. Donc je pense qu'il y a une cause qui est en effet inhérente à notre mode de vie, mais qui n'est pas du tout finalement indispensable, en dehors du rythme du travail. Et voilà.
Tu as déjà très bien répondu, en fait, au moins en grande partie. On va toujours trouver quand même des contextes, bien sûr, où il y a un mode de vie, il y a des obligations personnelles, familiales, professionnelles surtout, qui effectivement peuvent gêner, on va dire, une bonne hygiène de sommeil. Nous, on parle souvent d'hygiène de sommeil en médecine du sommeil, parce que on parlait des causes d'insomnie. Il y a souvent des causes extérieures, enfin externes, comme on en a parlé, des pathologies médicales, des pathologies psychologiques. Mais en général, quand on cherche bien, on trouve toujours des erreurs dans l'hygiène de sommeil des gens. Et d'ailleurs, je m'inclus aussi, hein, c'est-à-dire qu'on ne fait jamais tout parfaitement. On fait toujours des choses qui peuvent gêner notre sommeil. Donc finalement, c'est vrai que même quand on a des obligations, même quand on peut dire que effectivement, dans la société d'aujourd'hui, dans les démarches actuelles, on peut avoir des excuses aussi pour abîmer son sommeil, on s'aperçoit quand même que quand on prend les choses de façon posée avec un peu de recul et avec un petit peu, on va dire, le tableau des choses auxquelles il faudrait faire attention et qu'on peut suivre, on s'aperçoit quand même qu'on a la possibilité d'améliorer pas mal de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux, hein, qui sont sortis là-dessus. Je n'ai pas les chiffres très exacts et puis j'aime pas trop me risquer à ça, parce que je suis moins doué que mon collègue. Mais on sait par exemple que sur les 20-30 dernières années, les gens ont perdu au moins une heure de sommeil. Mais en fait, dans ces travaux, on s'aperçoit que il y a souvent pas du tout de rôle professionnel ou de choses comme ça. C'est juste que les gens se couchent plus tard, qui font la tablette, du smartphone, internet, qui veulent finir le livre, qui veulent regarder la fin du dernier Game of Thrones, qu'ils veulent regarder le débrief de telle émission qui passe en prime time et qui a un débrief après de 23h à minuit. En général, il y a toujours quand même des petites choses qu'on s'autorise, qu'on a le droit de s'autoriser, mais qui expliquent aussi au moins en partie les troubles. Il est quand même rare, et je pense qu'au niveau de la médecine du travail, on aura peut-être des réponses plus précises, mais normalement quand même, y compris pour les gens qui ont des horaires de travail qu'on va dire pénibles, dans ce qu'on appelle les horaires atypiques, en fait, c'est-à-dire les gens qui peuvent prendre le travail très tôt, le finir très tard, ou avoir du travail en ce qu'on appelle en 3-8, c'est-à-dire du travail posté, travailler un coup du matin, un coup du soir, un coup de la nuit. Il y a quand même des réglementations par rapport à ça, alors qu'ils ne sont pas forcément parfaites et optimales, mais il y a quand même des réglementations dans les enchaînements, dans les temps de pause, dans les jours de pause, etc., qui normalement permettent quand même de prendre relativement soin de son sommeil. Voilà. Mais vous apercevez par exemple que c'est chez gens-là, souvent, ils vont vous dire, bah oui, effectivement, dans ma période de break, j'en ai profité pour sortir, pour finir toute ma série NCIS parce que j'avais 40 épisodes de retard. Bref, on va aussi pas forcément toujours prendre soin de son sommeil au moment où on le peut. Donc ça peut se comprendre d'un point de vue mode de vie et envie, hein, mais du coup forcément ça a des répercussions sur son sommeil. Voilà, si je suis à peu près clair.
Juste si vous voulez un petit chiffre comme ça sur une des dernières études sur les dernières années, sur les 20 dernières années de mémoire, on a perdu 3h37 de sommeil, qui correspond, pour en faire le lien ou pas comme on veut, mais la durée moyenne devant un écran en France, c'est 3h37 par jour.
Alors moi, je veux vraiment vous parler sur le côté travail. Hein. Alors le travail de nuit, spécifiquement de nuit, c'est mauvais pour la santé. Toutes les études le prouvent aujourd'hui de façon très claire. Et la première pathologie qu'entraîne le travail de nuit, ce sont les troubles du sommeil. La difficulté, c'est que, alors ça ne touche pas tout le monde, hein, bien évidemment, comme toujours, hein, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années où se sont installés ces troubles du sommeil, même si on revient au travail de jour, ces troubles ils sont irréversibles. Donc c'est une vraie problématique. Après, il y a d'autres pathologies, hein, qui sont entraînées par le travail de nuit, comme ce qu'on appelle les syndromes métaboliques, hein, c'est-à-dire le diabète, l'hypertension, etc., qui sont souvent aussi liés à une mauvaise hygiène alimentaire et des conditions de travail qui font que la nuit, on a plus tendance à grignoter et à ne pas respecter les heures de repas comme on travaille dans la journée. Et puis, une autre pathologie maintenant qui a bien été identifiée, montrée par les études, c'est aussi le cancer, notamment le cancer du sein chez la femme. Après, il n'y a pas que le travail de nuit dans les horaires atypiques. Il y a aussi ce qu'on appelle, effectivement, ce que vous avez dit tout à l'heure, les 3-8, le travail posté, etc. Alors après, là, c'est plus au cas particulier, j'allais dire. Ça dépend à quelle heure on commence le matin. Hein. Ce n'est pas du tout pareil de commencer à 4 heures du matin qu'à 6 heures du matin. Et ça va dépendre si aussi, ce qui a été évoqué tout à l'heure, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt du soir ou plutôt du matin. Hein. C'est-à-dire, est-ce que vous avez plutôt tendance à vous coucher tard le soir et à récupérer le matin, ou au contraire, est-ce qu'à 20h, 21h, c'est plus possible et vous préférez vous lever tôt? Donc, si vous préférez vous lever tôt et que vous avez un travail où vous commencez à 6h, vous serez beaucoup moins gêné que l'inverse. Par contre, à 4h du matin, quelle que soit sa susceptibilité individuelle, eh ben, ça veut dire qu'il faut couper votre sommeil à 3 heures du matin. Et ça, c'est très rapidement mauvais pour la santé, parce que ces gens, ils accumulent ce qu'on appelle de la dette de sommeil. Et moi, j'ai des salariés là que je suis qui commencent à 4 heures du matin, 6 jours de suite. Donc, inutile de vous dire que même ces gens à 25 ans, au bout d'un an ou deux, ils sont épuisés parce qu'ils n'ont plus qu'un jour dans la semaine pour récupérer. Ils accumulent ce qu'on appelle de la dette de sommeil. Ils n'arrivent jamais à récupérer. Il faut les obliger. Alors, après, on a des recommandations. La première recommandation, c'est quand vous êtes obligé de couper votre nuit de façon artificielle, vous rentrez, il faut vous coucher, il faut faire la sieste. Donc après, on a des tas, effectivement, on leur donne des plaquettes, d'hygiène de vie en général, sur le quand se reposer, comment, sur l'hygiène alimentaire, etc. Et puis après, sur les rythmes, effectivement, postés, alors là, ce n'est pas de la réglementation, parce que malheureusement, au niveau de la réglementation, il n'existe rien. Mais par contre, on a des recommandations par rapport à ça. On sait effectivement dans quel sens il vaut mieux tourner pour éviter ces désynchronisations et ces accumulations de dettes de sommeil. C'est-à-dire qu'il faut mieux commencer à travailler le matin. On va faire un cycle du matin, puis un cycle d'après-midi, puis un cycle de nuit. Et après la nuit, on a des jours de repos. Voilà, c'est dans ce sens qu'il faut tourner. Donc nous, on fait des recommandations auprès des employeurs, mais après, ils suivent pas.
Juste du coup pour un mot, parce que je parlais de réglementation, en effet, je faisais en fait allusion à certaines réglementations. Alors, c'est vrai que tout n'est pas très strict sur le travail de nuit, sur le travail posté. Il y a quand même des éléments, par exemple, moi, à ma connaissance, en ce qui concerne le travail de nuit, il y a une réglementation sur le nombre de nuits d'affilée possible quand même. C'était dans les connaissances que j'avais, mais qui sont peut-être un peu erronées, c'est possible. Par contre, je suis sûr qu'il y a une réglementation, par exemple, au niveau aérien. Parce que ça, j'ai un peu travaillé là-dessus avec des pilotes, parce que moi, je ne suis pas très, très loin de l'aéroport Saint-Exupéry à Lyon. Donc, on a régulièrement des gens qui travaillent sur l'aéroport, des pilotes aussi, des hôtesses, etc. Et par exemple, au niveau vraiment dans le domaine aérien, long courrier, ils ont finalement pas mal d'avance sur la gestion des rythmes, parce qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup de travaux sur la gestion à la fois de ces rythmes complètement décalés, parce qu'on a des pilotes qui partent pour, même pas que les pilotes d'ailleurs, tout le personnel à bord, tout le personnel de bord qui part pour des vols de 10-12 heures, qui se retrouvent dans un pays dans lequel il y a 9 heures de décalage horaire dans un sens ou dans l'autre. Ça peut très vite devenir n'importe quoi et du coup être dangereux pour leur capacité attentionnelle, intellectuelle, de vigilance et donc pour la sécurité des voyageurs. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de travaux dessus et il y a une... Alors c'est vrai que je ne suis même pas sûr que ce soit des réglementations non plus pour le coup, c'est peut-être plutôt des recommandations, c'est la recommandation de l'IRA si je ne me trompe pas, c'est la Association internationale du transport aérien, en fait, qui du coup recommande, mais à ma connaissance, se rend obligatoire pour ses adhérents le respect de certaines réglementations. Par exemple, pour les vols long courrier avec des décalages horaires importants, ils exigent en fait qu'entre les allers-retours, il y ait ce qu'ils appellent des restart breaks, donc vraiment des pauses de repos qui durent au moins 36 heures, si je ne me trompe pas. Et dans ces restart breaks, ils exigent que par rapport à leur, on va dire, à leur horaire, mais de lieu d'origine. Donc par rapport au, comment dire, parce qu'il y a le problème du décalage horaire, mais si on prend le fuseau horaire de là d'où ils viennent, ils exigent en fait que dans cette restart break, il y ait au moins deux fois l'intervalle 1h-5h du matin, parce qu'on sait que c'est l'intervalle qui est le plus important pour la récupération, tout simplement notamment parce qu'il correspond à ce pic de sécrétion de mélatonine dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc en général, voilà, si vous vivez en France et que vous partez pour un vol long courrier aller-retour, sur le retour, vous avez cette restart break obligatoire qui doit... En fait, ça peut être de n'importe quelle heure à n'importe quelle heure sur 36 heures, mais il faut forcément qu'il y ait deux fois l'intervalle 1h-5h heure française, parce que ça va correspondre normalement, si on fait des dosages, des analyses, quasiment toujours chez les gens, à un pic important de mélatonine et donc à une préparation au sommeil et donc une, on va dire, une efficacité de sommeil beaucoup plus importante. Voilà, ça dérive un petit peu, mais ça permet aussi d'expliquer d'ailleurs pourquoi c'est toujours mieux de dormir la nuit que le jour. Pourquoi les gens qui travaillent de nuit et qui du coup se reposent le jour ont plein de pathologies, vivent moins longtemps. Alors c'est vrai qu'il y a du coup l'hygiène de vie qui va être modifiée, on mange un peu à n'importe quelle heure, on peut manger n'importe quoi, etc. Mais au niveau justement métabolique, au niveau de l'organisme, il est prouvé que le fait de ne pas dormir au bon moment et du coup d'être actif au mauvais moment crée en fait des conflits entre ce que notre organisme attend comme action et puis d'ailleurs ce qui sécrète en termes d'hormones, d'hormones d'appétit, d'hormones de satiété, d'hormones de repos, d'hormones d'activité. Et en fait, ce décrochage en fait entre ce que l'organisme attend et ce qu'on fait nous entraîne en fait une, on va dire, une usure prématurée de l'organisme, que ce soit au niveau intellectuel ou même plus général. Voilà. Alors, les cycles de sommeil, oui, on va les faire dans la journée, mais en général, ils vont être de moins bonne qualité. C'est-à-dire que notamment les cycles très importants, les stades dont je parlais, profond, paradoxal, c'est une bonne question. Ils sont souvent différents en quantité, en richesse, en fréquence, notamment parce que du coup, en général, si vous dormez dans la journée, de toute façon, vous allez avoir un sommeil qui ne correspond pas, notamment par exemple, à l'information de mélatonine. Et donc, l'absence de certains médiateurs, notamment de la mélatonine, entraîne en fait une moins bonne qualité de sommeil. Voilà. On sait ça d'ailleurs notamment aussi à partir des travaux sur les somnifères, c'est-à-dire quand vous prenez des somnifères, comme ils perturbent le fonctionnement des mécanismes de sommeil, c'est aussi pour ça qu'on sait qu'ils dégradent la qualité du sommeil. Un sommeil sous somnifère est forcément moins bon qu'un sommeil naturel. Voilà, il vaut même probablement mieux dormir un peu moins sans somnifère que faire ces belles 8 heures mais sous Z-drugs dont on parlait tout à l'heure. Ah.
Cette mélatonine, en fait, il n'y a pas possibilité. Vous dites que c'est cette hormone en fait, qui favorise le sommeil, mais les heures en fait, de pic, est-ce qu'ils viennent en fait, de nos habitudes finalement par exemple, je ne sais pas, si on dormait tous les jours en, fait, en journée, est-ce que ce pic, au bout d'un moment, ne viendrait pas en, fait, en journée?
Alors, on peut agir sur nos rythmes de sommeil. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est le concept du décalage horaire, quand on part à l'étranger, qui fait qu'on est complètement à l'ouest les premiers jours, mais qui fait que petit à petit, on peut se resynchroniser avec le fuseau horaire de l'endroit où on atterrit. Donc c'est modifiable. Au départ, il y a quand même un facteur génétique, clairement aussi. Alors je suis beaucoup dans les gènes, ça ne détermine pas tout bien évidemment, mais il y a un facteur génétique, hein, on parlait des sujets du soir, des sujets du matin. On a même trouvé les gènes qui correspondent, qu'on appelle les gènes de l'horloge, parce qu'en fait ce sont des gènes qui vont déterminer un petit peu notre type d'horloge biologique et donc nos habiletés à être plutôt du matin ou plutôt du soir, voire même pour certains être complètement décalés. Hein. Chez les enfants, il y a un syndrome dont le nom est un peu compliqué, ça n'a pas d'importance, mais il y a des enfants qui naissent avec un syndrome génétique où vous avez une inversion complète du rythme de la mélatonine, qui fait qu'ils dorment le jour et qu'ils n'arrivent pas à dormir la nuit, qu'ils sont au taquet toute la nuit. Donc quand on s'aperçoit vraiment que biologiquement il y a ça, alors je ne parle pas du fait qu'ils vous empêchent de dormir à plusieurs moments de la nuit, je parle vraiment du fait qu'ils ne dorment pas du tout la nuit et qu'ils dorment toute la journée. Souvent, quand vous les analysez, vous apercevez qu'il y a effectivement une inversion de phase. Le problème, c'est qu'encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a certaines commandes de sommeil dans la journée que c'est forcément bon de dormir dans la journée. Notamment parce que quand vous dites est-ce qu'il y a moyen d'influencer, oui, mais par exemple quels sont les synchroniseurs, on appelle ça, de l'horloge biologique, donc pas forcément que de la mélatonine, mais aussi du fonctionnement de notre cœur, nos reins, de notre cerveau, de notre foie, bref, de tout notre organisme. En fait, notre organisme va fonctionner à peu près sur 24 heures, et ça on le sait depuis qu'on s'est amusé à enfermer des gens sans repère temporel pendant des semaines, on s'aperçoit que les gens vivent sur 24-25 heures en moyenne. C'est-à-dire que l'organisme est conçu pour vivre sur 24 heures. Et comment il fait pour fonctionner comme ça, comment il s'adapte aux changements, en fait, il prend les informations qu'on lui donne, donc ce qu'on appelle les synchroniseurs externes, les horaires de repas, l'activité physique, la stimulation intellectuelle, et le plus important de très très loin, c'est l'alternance jour-nuit, donc lumière-obscurité. Donc par exemple, on pourrait dire, tiens, est-ce que ce serait possible finalement de totalement dormir la journée et de vivre la nuit? Ça veut dire qu'en gros, il faut qu'on ait un sommeil artificiel au-dessus de la tête toute la nuit, et puis vraiment qu'on se prive de lumière complète la journée idéalement, pour forcer un petit peu les choses. Mais du coup, on est là, en fait, on rentre dans un débat un peu plus général qui est est-ce que finalement on veut tout modifier, quoi. C'est un peu ça. Donc techniquement, c'est possible, mais il faut vraiment qu'on laisse passer aucun détail si on veut que ça soit, on va dire, efficace et que ça ne joue pas aussi sur la qualité de vie, puisqu'on l'a vu, le fait d'avoir un sommeil modifié, notamment au niveau professionnel, ça a des conséquences très très nettes. Hein. Les conséquences de l'insomnie, de l'hypersomnie, du sommeil décalé, de la mauvaise qualité de sommeil, en fait, quand vous regardez les statistiques, c'est quasiment toujours les mêmes, quel que soit le type de pathologie. C'est-à-dire que vous allez avoir de la fatigue, vous allez avoir une baisse des capacités intellectuelles, vous allez avoir des troubles de fertilité, vous allez avoir des troubles cardiovasculaires, hypertension, diabète, cholestérol, infarctus, AVC, enfin plein de choses sympas. Vous avez des cancers aussi, effectivement. Alors, le cancer du sein, c'est démontré. Il y a aussi quand même pas mal de travaux sur les cancers du côlon, hein, le cancer colorectal, la prostate aussi, tout à fait. Et puis, on en a parlé, il y a la maladie d'Alzheimer aussi, hein, clairement. La maladie d'Alzheimer, les troubles du sommeil sont un facteur de maladie d'Alzheimer, tout comme les somnifères, d'ailleurs. Donc, à la fois le problème et ce qu'on espérait être la résolution il y a quelques temps. Après, du coup, quand même pour revenir sur l'autre partie de votre question, puisque vous avez parlé des techniques possibles pour favoriser le sommeil avec l'auto-hypnose, etc. Ça, je vais laisser la main à mon confrère parce qu'il sera beaucoup plus compétent que moi. Sauf si tu veux compléter, oui, bien sûr.
Alors, ce que je vous rapporte un petit élément, c'est sur la fréquentation, par exemple, dans une officine. On voit les gens qui viennent de tout horizon, hein, spécialistes et généralistes. Et en général, pour les classes plus jeunes, c'est toujours des problèmes, pour la majorité, des problèmes de société, hein, c'est-à-dire l'environnement, les soucis de travail. Et puis, pour les personnes un peu plus âgées, c'est plutôt souvent c'est des problèmes d'hygiène de vie. Il y en a énormément, par exemple. Vous parliez de tablettes et qui restent devant l'ordi, c'est vrai, hein, il y a la sédentarité, celui qui mange énormément avant d'aller dormir. Et puis il y a celui qui se pique un roupillon devant la télé, et ça, il y en a énormément. Ça, c'est vraiment, je dirais que c'est le number one au comptoir. Il se pique un roupillon, après il va faire pipi, il va marcher les pieds sur le carrelage, il va être bien réveillé pour partir, il aura du mal, et il ne comprend pas, il dit ben, « je ne dors pas bien voilà. ». Donc là, ça fait partie de l'hygiène de vie, c'est peut-être risible, mais enfin, c'est vraiment un cas qu'on voit relativement souvent au comptoir, quoi. Je ne parle pas d'après de ceux qui ont des problèmes de pathologie douloureuse, parce qu'en général, ils sont sous un label de suivi, hein, de part et d'autre. Et donc, ceux-là, ils sont déjà plus accompagnés, ils sont plus ciblés, hein, comme les cas psychotiques ou les toxicomanes, ils se trouvent dans un registre. Mais en général, c'est la population âgée, c'est plutôt un problème d'hygiène de vie, sauf pour quelques cas ponctuels. Et les autres, c'est plutôt un problème de société, quoi. On a des soucis avec l'enfant, le ménage, le travail et compagnie, qui perturbent, hein, qui se gèrent ou avec des tranquillisants ou avec des hypnotiques, ça dépend comment ça se goupille, hein, mais pour l'essentiel, c'est à peu près ça. Alors, je voudrais poser une petite question, parce que aux spécialistes qui sont là, c'est sur par exemple, la ventilation d'une chambre. Il faut savoir, on parle de température et de ventilation. On dit que lorsqu'il y a une mauvaise ventilation, il y a une augmentation du CO2, ça excite et ça dérègle le sommeil.
Je suis toujours un petit peu embêté par rapport au, on va dire, au, bien sûr qu'il faut quand même faire très attention à son environnement. Encore une fois, quand je parlais d'hygiène de sommeil, de tous les critères d'hygiène de sommeil, il y a tout un tas tout un protocole sur lequel on embête les gens, sur les heures de coucher, sur les choses à faire, les choses à ne pas faire avant de dormir ou quand on se réveille la nuit. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Je suis toujours embêté sur, même si la question est super pertinente, sur les choses très précises, parce que une chose toute bête, hein, mais la capacité de s'endormir, c'est pas le fait de le décider, de le déclencher, c'est surtout la capacité à lâcher prise. Hein. Donc c'est vraiment le fait d'arrêter d'être éveillé. Et c'est quand on arrête d'être éveillé que le sommeil va venir. Malheureusement, on n'a pas vraiment encore trouvé comment dormir volontairement. Hein. On n'arrive pas à se forcer à dormir. On n'arrive pas non plus à forcer les gens à dormir avec des médicaments. D'ailleurs, on vient de le voir réellement. On peut parler de l'auto-hypnose, effectivement, sachant qu'est-ce que c'est du coup le fait de déclencher le sommeil ou justement le fait d'aider les gens à lâcher prise. Ça peut être un débat, mais et donc c'est vrai que je reste prudent quand j'ai des questions assez précises, parce que souvent j'ai des patients qui se renseignent beaucoup parce que ça fait des mois qu'ils dorment plus, ils n'en peuvent plus. J'ai des questions très très précises sur l'orientation du lit, sur les ondes, sur la température, sur le taux d'oxygène, etc. Bien sûr qu'il y a des liens, hein, un truc tout bête, hein, sommeil et altitude par exemple, c'est prouvé qu'en altitude on dort moins bien, notamment à cause des différences de pression. Donc en effet, l'histoire de l'oxygène, du dioxyde de carbone dans la pièce, la température, c'est hyper important, on recommande du 17-20 degrés à peu près dans la chambre, hein, minimum et maximum. Je faisais l'allusion au lâcher prise parce que je pense que c'est aussi important de pas forcément à tout prix se mettre une pression énorme sur le moindre petit détail, parce que quelque part c'est aussi se coincer dans un fonctionnement d'hyperpression, hein. Il faut que je fasse tout parfait, il faut que je dorme cette nuit, sinon je vais être naze demain. Voilà, c'est à mon avis, le sommeil, c'est aussi le fait de dédramatiser. C'est l'un des principaux outils, on y viendra peut-être aussi, du traitement de l'insomnie, que ce sont les thérapies cognitivo-comportementales, qui ont de très très bons effets et qui sont internationalement largement recommandées dans les somnifères. Mais bon, en France, apparemment, on n'a pas encore eu trop l'info. Le principal travail en thérapie cognitive et comportementale, c'est vraiment le lâcher prise. C'est de dire aux gens, mais regardez, en fait, souvent on fait des thérapies de groupe. Ça marche super bien parce qu'en thérapie de groupe, les gens se retrouvent dans une pièce où il y a 10 autres insomniaques avec eux. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas uniques, ils se rendent compte que les autres ont des problèmes d'insomnie. amis, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont tous les mêmes réflexes qui ne sont pas forcément très bons. Hein. Comme je ne m'endors pas, je mets la musique, j'allume la télé, je fais de la tablette. Le matin, je me réveille spontanément à 6 h du matin, mais comme j'ai passé une mauvaise nuit, je reste au lit jusqu'à midi. J'exagère, hein, bien évidemment, mais c'est pour vous donner un petit peu la mauvaise dynamique. Je pense aussi que le fait de bien dormir, c'est avant tout de dédramatiser le sommeil. En général, souvent, l'idée qui marche le mieux quand on a passé une mauvaise nuit, c'est de se dire bah, chouette, je vais vachement mieux dormir la nuit suivante parce que je suis fatigué. Et surtout que c'est une réalité. Si vous vous dites ça, je vous assure, vous dormirez bien. Ce qui fait souvent qu'on rentre aussi dans l'insomnie chronique d'un point de vue intellectuel, hein, s'il n'y a pas aussi d'autres facteurs qui entretiennent l'insomnie, bien sûr, c'est que les gens ayant passé une mauvaise nuit sont convaincus que ça y est, ils sont foutus, ils ne dormiront plus. Quand vous allez vous coucher avec cet état d'esprit-là, vous n'avez aucune chance de vous endormir. Il y a une étude il y a quelques temps qui avait été réalisée, parce qu'on parlait d'études tout à l'heure. Si vous vous amusez à enfermer dans un dortoir 50 personnes en promettant 1 000 $ au premier qui dort, je dis 1 000 $ parce que c'était une étude américaine, vous revenez 2 heures après, il n'y en a pas un qui a fermé l'œil. Hein. C'est évident. Voilà.
Je voulais simplement faire remarquer qu'il y a une personne qui voulait poser une question entre les brèves de comptoir des officines et les insomniaques anonymes, si la dame peut poser sa question. Mais elle n'a plus de micro. Tant pis, vous avez passé votre chance, les 1 000 $, ce n'est pas pour vous, madame.
Bon, je voudrais savoir si, à mon sens, il y a différentes choses dans les troubles du sommeil. Il y a les personnes qui n'arrivent pas à s'endormir, c'est-à-dire un problème à l'endormissement, et puis d'autres qui vont se réveiller la nuit et ne pas arriver à se réendormir. Est-ce que ça concerne les mêmes phénomènes? Est-ce que ça... Parce qu'à ce moment-là, on a la bouillon de 11 h et la pilule de 3 h du matin. Enfin, on n'en sort plus. Et je serais peut-être plus versée sur l'auto-persuasion ou l'auto-hypnose pour ce genre de choses. Alors, est-ce que c'est le même phénomène et comment y pallier?
Moi, juste après, sur la physiologie, je te laisserai répondre, mais en effet, la plupart des molécules maintenant qu'on a sont des molécules à demi-vie courte, c'est-à-dire dont l'effet passe rapidement. Donc, en effet, si vous voulez dormir avec une benzodiazépine, vous allez prendre votre comprimé à 23 h, à 2 h du matin, il n'y a plus d'effet, vous reprenez le deuxième, à 4 h, 5 h du matin, vous reprenez le troisième. Bon, bref, après, vous en avez un effet cumulatif. À 7 h, vous ne vous levez plus. Quoi. C'est super, mais voilà. Donc, vous avez mal dormi, vous vous êtes shooté au benzo, et vous avez tout perdu. Je ne sais pas si tu veux...
Alors, je suis à la fois d'accord et pas totalement parce que ça dépend des molécules. C'est aussi, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que effectivement, par exemple, les somnifères sont en gros ce qu'on appelle les benzodiazépines. En fait, ce sont des dérivés de molécules benzodiazépines, donc ils sont très proches des anxiolytiques classiques. Leur idée, c'était qu'ils avaient des vertus plus sédatives que les autres, et surtout leur gros argument d'utilisation était de dire, en effet, leur durée d'action est plus courte. Donc c'est complètement vrai. Par contre, ça dépend des somnifères parce que, et je pense que dans tous les cas, c'est problématique. Je peux prendre 2 exemples. On parlait tout à l'heure du zopiclone et du zolpidem. Le zolpidem qui est réputé pour être vraiment très court et d'ailleurs qu'on va plutôt en général prescrire dans les difficultés d'endormissement, hein, c'est problématique pour moi parce que comme c'est un traitement qui agit de 3 heures, souvent quand on donne ça aux gens qui ont du mal à s'endormir, ils viennent vous voir en disant ça y est, je m'endors, mais maintenant je me lève à 3 heures du matin. Parce que du coup, vous avez une action importante de la molécule qui crée une sédation et donc peut-être pas un sommeil, parce que moi j'ai quand même du mal à dire qu'on dort vraiment sous ces molécules-là, mais en tout cas un arrêt de l'éveil. Par contre, le fait en fait que tout à coup le traitement s'interrompt entraîne ce qu'on appelle souvent un rebond d'insomnie. Donc très souvent, les gens qui prennent du Cinox depuis longtemps, j'ai dit la marque, du coup, tant pis, faute, vous avez le droit de me lancer quelque chose, vont se plaindre de se mettre à se réveiller dans la nuit, ce qui ne leur était pas forcément arrivé auparavant. Et par exemple, pour prendre l'autre molécule, donc le zopiclone, c'est bon, cette fois, j'ai pas fait d'impair, le zopiclone, on estime que sa durée d'action, c'est à peu près 5 à 8 heures en fonction des gens. Hein, je pense que le pharmacien sera d'accord avec moi. Les durées d'action estimées, c'est sur des adultes jeunes de 25 ans, sans autres médicaments et sans pathologie. Donc moi, j'ai l'habitude de dire que ce genre de molécule, oui, à 25 ans, si vous n'avez aucun souci, aucun médicament, ça va durer à peu près 5-8 heures. Moi, qui en psychiatrie travaille beaucoup avec les personnes âgées, je peux vous affirmer que biologiquement, un Imovan, quand on a 65-70 ans et qu'on prend d'autres produits et qu'on a éventuellement des problèmes un petit peu de foie ou de rein, l'Imovan, vous pouvez tabler sur une durée d'action de 16 heures. C'est une cause, c'est un facteur non négligeable de chute de la personne âgée, le somnifère de la veille. Hein. Une personne âgée qui chute à 11h tous les matins, moi, la première chose que je regarde, c'est son ordonnance du soir. Hein. Parce que souvent, vous avez un médicament qui continue à agir, pas suffisamment pour faire dormir, mais suffisamment pour sédater, pour rendre moins vigilant, pour rendre un peu titubant. Mais voilà, après, sur le principe, on est d'accord que c'est bien moins pire que les vrais anxiolytiques. Par exemple, vous avez d'autres anxiolytiques comme le bromazépam, par exemple, qui est assez connu. Le bromazépam, sa durée d'action estimée moyenne, c'est à peu près 36 heures chez un adulte jeune. Et donc le double chez quelqu'un de plus âgé. Alors, ça n'entraîne pas 36 heures de sommeil, ça a une action de 36 heures. Mais c'est important parce que quand vous voyez du bromazépam prescrit matin, midi, soir et coucher, le troisième jour, vous pouvez partir du principe quand même que le tout premier que vous avez pris il y a 3 jours, il est encore plus ou moins actif si vous avez 70 ans. Donc,
juste,
ça peut créer un effet cumulatif.
Juste avec le problème de l'accoutumance.
Et en plus, avec le problème de l'accoutumance, bien sûr.
Oui, bonjour. On a parlé de la qualité du sommeil et de l'hygiène du sommeil. J'aurais deux questions par rapport à ça. La première, est-il si important de se coucher à heure régulière pour la qualité du sommeil? Et la deuxième question, est-il possible de diminuer la quantité de sommeil en faisant une sieste?
Ok, donc je vais d'abord apporter cette réponse-là, puis je peux aussi avoir besoin de toi par rapport au sommeil quand même, dans les règles d'hygiène en fait. Ce sont deux très excellentes questions parce que c'est ma bataille quotidienne en fait. On voit aussi beaucoup le sommeil, d'ailleurs même moi je suis tombé dans le piège depuis le début là, de la soirée. On tombe souvent dans le piège de voir le sommeil avant tout comme un quota à faire. Donc c'est vrai qu'il y a un temps de sommeil nécessaire, hein, je me contredis pas, c'est le cas. On a un quota de sommeil à faire, sauf qu'il y a globalement trois grands impératifs pour avoir une bonne qualité de sommeil et du coup une bonne qualité de vie. Il y a le temps de sommeil, mais ça on le sait tous parce que quand on dort pas assez on est épuisé, hein. Mais il y a aussi deux autres impératifs qui sont au moins aussi importants, c'est les horaires, c'est-à-dire des horaires adaptés, hein. On parlait tout à l'heure le fait de dormir la nuit et pas le jour, donc j'ai déjà un petit peu argumenté. Et le troisième élément, comme vous le disiez, c'est la régularité. La régularité, tout simplement parce que je l'ai aussi un petit peu argumenté, je parlais du fait que notre organisme sur 24 heures a un mécanisme d'action et une répartition de toutes ses fonctions sur 24 heures. Il faut partir du principe que la plupart des fonctions, enfin la plupart de ce qui constitue notre organisme nécessite énormément de choses à faire sur toute la journée. Et que comme on ne peut pas tout faire en même temps, on a besoin de le répartir. Et en fait, notre organisme est relativement bien fichu par rapport à ça. On parlait d'horloge tout à l'heure. On a largement démontré, maintenant on le sait, que dans le cerveau, on a ce qu'on appelle une horloge biologique. Donc il n'est pas une horloge nucléaire capable de déterminer l'heure solaire exacte, hein, mais qui en fait a un rôle d'horloge dans le sens où il répartit le fonctionnement de l'organisme à peu près sur 24 heures. C'est pour ça que si vous mesurez votre tension artérielle sur 24 heures, vous allez vous apercevoir qu'elle est plus élevée le jour que la nuit, que votre température centrale est un tout petit peu plus élevée aussi le jour que la nuit. Alors on est à 37,1, 37 de la journée, 36,8 la nuit. Le soir, souvent, quand on manque de sommeil et qu'on est fatigué, on a froid. C'est notre organisme qui se prépare au sommeil, par exemple. Donc, il y a une régularité biologique. Et du coup, le fait d'avoir un sommeil régulier, c'est tout simplement bien écouter et bien répondre à cet ordre biologique des fonctions de l'organisme. Donc, c'est une grande phrase, mais tout ça pour vous dire que la régularité, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça aussi que souvent, quand des gens me disent, mais alors attendez, parce que moi, vous me demandez de me lever tous les jours à une certaine heure, par exemple à 6h30, parce que toute la semaine, je dois me lever à 6h30 pour le boulot, vous êtes sympa, mais moi, le week-end, des fois, je me couche à 1h du matin. Techniquement, si vous avez des gros soucis de sommeil et qu'on veut vraiment résoudre le problème, moi, dans ces cas-là, je dis aux gens, écoutez, même quand vous vous couchez à 1h30 du matin, vous vous levez à 6h30, 7h, grand maximum. Parce que le fait de chercher à récupérer du temps de sommeil vous apporte une amélioration de cette problématique-là, mais du coup détruit les deux autres impératifs, la régularité et l'adaptation des horaires. En termes d'hygiène de sommeil, du coup, ça me permet quand même d'enchaîner, parce que c'est vrai qu'on a vu la question tout à l'heure sur les difficultés qu'on peut avoir à s'endormir, mais du coup, je vais te laisser en fait en parler, ce sera plus simple. Hein.
Alors, pour revenir sur les deux questions sur les autres méthodes, y a pas mal de méthodes qui se développent en ce moment. Y avait la sophrologie, tout ce qui va être méthode de méditation, l'hypnose aussi. Je vais parler de celle que je connais le mieux, qui est l'hypnose. Je vais vous donner juste déjà la différence essentielle entre la sophrologie et l'hypnose. C'est que le principe, c'est le lâcher prise. tu l'as employé à quelques reprises, mais le but essentiel, c'est celui-là, c'est le lâcher prise. Et donc, en effet, c'est quelque chose vraiment qui nous est appris en hypnose. Si vous voulez dormir et que vous passez votre temps à vous dire « il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme », 4 heures après, vous êtes toujours réveillé à regarder le réveil. Donc, parce que votre obsession, ça va être celle-là, et à aucun moment, vous ne lâchez prise. La différence entre l'hypnose et la sophrologie, c'est que la sophrologie, vous êtes en état de sommeil, et l'hypnose, c'est un état d'éveil. Et c'est ce qu'on appelle parfois l'éveil paradoxal, contrairement au sommeil paradoxal, parce qu'en fait, en état d'hypnose, il y a une activité cérébrale intense qui équivaut, qui est la même que celle que quand vous êtes actif, en fait. D'accord ? Vous avez, faut savoir qu'en état d'hypnose, votre cerveau fonctionne comme si vous étiez en situation réelle. S'il y a pas mal d'études qui ont montré ça, notamment des études avec des IRM, des PET scans, qui montrent le fonctionnement du cerveau. Quand vous êtes en situation réelle, vous décrivez le tableau qui est là-bas, vous allez le voir, vous allez le décrire, votre cerveau va fonctionner d'une certaine façon. Si on vous enlève le tableau et que vous le décrivez, vous allez le décrire sur une autre zone du cerveau qui est la zone des souvenirs. Vous allez le décrire en fonction de ce dont vous vous rappelez de ce tableau. Si on vous met en état d'hypnose et que vous décrivez le tableau, en état d'hypnose, vous allez le décrire comme si vous étiez devant. Et votre cerveau fonctionne comme si vous étiez devant. Donc c'est comme ça que fonctionne l'hypnose. C'est pour ça que je précisais ça, parce que l'hypnose, on en parle beaucoup, mais surtout en hypnose dite de cabaret. Je ne vais pas citer Mesmer, mais Mesmer. Le nouveau, hein, pas l'ancien, pas celui qui a inventé l'hypnose il y a 3 siècles, mais celui qui est, qui est sur les plateaux d'Arthur. Et donc, c'est de l'hypnose de cabaret. On a un peu l'impression qu'on vous fait faire ce qu'on veut. Ce n'est pas du tout le cas en hypnose. Vous êtes vraiment en état de veille. Et vous entendez tout à la fois de manière consciente et en même temps de manière inconsciente. D'accord ? Vous avez déjà tous été en état d'hypnose, d'auto-hypnose, tous sans exception. Vous avez tous déjà lu un bon livre ou regardé un bon film avec votre conjoint qui vous demande quelque chose et vous ne le calculez pas, vous n'écoutez pas, vous ne répondez pas, pas parce qu'il vous énerve, mais parce que vous êtes tellement absorbé que vous êtes, votre corps est ici, votre esprit est ailleurs. Vous avez la même chose quand vous êtes en voiture et que vous êtes sur l'autoroute, ou sur la voie rapide et que vous vous rendez compte que vous avez déjà passé telle ou telle sortie, à aucun moment vous ne vous êtes endormi, sinon vous ne seriez plus sur la route, mais vous étiez en état d'auto-hypnose. Donc vous conduisez et votre esprit est ailleurs en train de penser à ce que vous devez faire dans la journée. Voilà. Et donc le principe de l'hypnose, c'est celui-ci, c'est ce qu'on appelle un principe de dissociation, c'est-à-dire de vous laisser là où vous êtes, en détournant votre esprit de façon à vous envoyer ailleurs. Et le principe de l'hypnose dans le cadre du sommeil, ça va être de trouver... ça commence par des consultations où déjà on va poser les choses, parce qu'en effet, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que si le problème c'est un problème de douleur, le traitement c'est le traitement de la douleur, c'est pas le traitement du sommeil. Donc le but c'est quand même de soulager le patient. Alors, par les antalgiques, par l'hypnose, par ce qu'on veut, mais le problème, c'est le traitement de la cause. Et si vraiment, hormis la douleur, il y a un problème autre, en effet, avec l'auto-hypnose, ça va être de vous donner les moyens, finalement, de retrouver en vous certaines ressources qui vont vous permettre de lâcher prise. Donc, après, on peut avoir un problème qui date de plus longtemps. Moi, ça m'est arrivé de faire des séances d'hypnose pour des patients qui ont tel ou tel problème et finalement, sur un problème de sommeil initial, et la séance déclenche d'autres choses et on se rend compte que remonte à la surface un problème dans l'enfance ou dans l'adolescence ou autre et qui débloque quelque chose qui fait qu'il n'y a plus de problème de sommeil. Ça, c'est la première utilité de l'hypnose. Et quand on n'arrive pas à trouver ça, ça va être vraiment de faire de l'auto-hypnose, c'est-à-dire d'apprendre au patient, au moment où il se couche, de lâcher prise, de se sentir bien, de relâcher, et du coup, d'être dans un état qui fait que cet état permet l'endormissement. Et en général, du coup, c'est les patients qui ne se réveillent plus non plus la nuit, quand ils s'endorment comme ça. Pour ceux qui se réveillent la nuit, de toute façon, vous repassez en auto-hypnose aussitôt, puis vous rendormez. La différence avec la sophro, c'est que ça va potentiellement, pour quelqu'un qui pratique, beaucoup plus vite. pouvez faire des séances d'auto-hypnose et vous endormir en une minute, alors que la sophro, c'est un peu plus long, quoi. Voilà. C'est sur ce principe-là.
Oui, bonsoir. Moi, la question que je voulais poser, c'est en fait, on a abordé surtout les adultes qui peuvent s'exprimer hein, par la parole, qui viendront consulter à la fois le pharmacien ou autre, en disant, voilà, j'en ai assez, je dors pas, comme vous disiez au départ. Et ce que je voulais aborder, c'était le phénomène chez l'enfant. L'enfant qui, lui, ne peut pas s'exprimer, justement, parce qu'il n'a pas encore l'usage de la parole. Je ne parle pas forcément du nourrisson, je parle de l'enfant qui, pourtant, a des parents normaux, on va dire, un équilibre de vie, voilà, et qui ne dort pas. Quel est le traitement et qu'est-ce qu'il faut faire, voilà.
Alors, si je vais être très réducteur sur le traitement. Hormis la phytothérapie ou l'homéopathie, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont d'autres types de molécules. Notamment, ça va être surtout des neuroleptiques ou des antidépresseurs. Enfin, c'est exceptionnel. Enfin, chez l'enfant, je pourrais presque dire quasiment jamais. Chez le grand ado à 15 ans, on peut le voir, mais en général, c'est qu'il y a une pathologie psychiatrique sous-jacente. Après, ça va être essentiellement des troubles. Alors, on revient surtout à la même chose. Hein. C'est essentiellement sociétal. Je n'ai pas dit toujours. J'ai dit c'est essentiellement. C'est essentiellement sociétal. C'est comme pour un adulte. Il y a, pour info, vous devez avoir à peu près 40% des enfants qui, à l'âge de 8 à 10 ans, ont la télévision dans leur chambre. Je vais redescendre par âge. C'est essentiellement souvent soit des problèmes par rapport donc au mode de vie, des enfants qui se couchent trop tard, des enfants qui se couchent devant la télévision, devant la tablette, etc. Après, il y a les angoisses. Les angoisses du sommeil. Après, il y a d'autres pathologies. On peut prendre des enfants qui vont se réveiller dans la nuit à cause de l'énurésie. Donc c'est ceux qui font pipi au lit encore assez grand et pour lequel il n'y a pas de cause organique retrouvée. Et puis si on descend encore dans l'âge, il y a grosso modo les deux causes principales, enfin les trois causes. La première cause, je vais la passer très vite parce que la première cause c'est les parents, d'accord. Pas parce qu'ils ne sont pas équilibrés, pas bien, pas tout ça, mais les enfants tout petits sont de véritables éponges. Donc si vous rentrez du boulot hyper stressé, hyper angoissé, hyper nerveux, hyper tout ce que vous voulez parce que ça ne va pas au boulot, vous pouvez être sûr que votre enfant ne va pas aller bien, ne va pas dormir. Donc ça, c'est le premier problème. Donc finalement, c'est un peu le problème des parents et pas de l'enfant. Après, en cause médicale, chez les tout petits, il faut penser au reflux, qui est quand même. Alors après, on pourra toujours évaluer le reflux et l'anxiété des parents et notamment de la mère. Je suis désolé de dire ça, c'est pas du tout machiste, hein, mais c'est notamment Aldo Nauri qui a établi cette relation. Ouais. Donc la question c'est reflux et anxiété des parents, point d'interrogation. Il y a de plus en plus d'enfants qui ont des reflux. Est-ce que c'est parce que les mères sont stressées pendant la grossesse, peut-être. Enfin, bon, après c'est toujours difficile de mettre ça en cause, mais on le voit de plus en plus. Et puis après il y a un autre problème, qui lui aussi est sociétal, c'est l'heure à laquelle vous couchez vos enfants. Je vous rappelle juste qu'un enfant a besoin de beaucoup dormir. On parle des tout petits, hein. Enfin, c'est vrai chez les plus grands aussi. Mais un enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans devrait être couché le soir à 20 heures. Un enfant de 8 ans, 10 ans devrait être couché le soir à entre 20h30 et 21h. Maintenant, regardez autour de vous quels sont les enfants qui sont couchés à 20 heures, ne serait-ce que parce que potentiellement, ce qu'on voit souvent, le père qui rentre tard du travail et du coup on a envie que l'enfant voit son père en train de travailler, donc du coup il est couché plus tard parce que, et puis on revient sur la même chose, c'est-à-dire même si à 2 ans, ils sont un peu petits pour les tablettes, et encore. Apple a développé un système qui est utilisable à partir de 18 mois, donc c'est très bien. Vous avez des jeux aussi, c'est-à-dire que c'est rarement calme. Le père ou la mère rentre du travail, rentre tard. Théoriquement, si vous rentrez tard, votre enfant devrait être quasiment douché par la nounou, avoir dîné, et puis finalement, vous rentrez, vous lui faites un câlin, il s'endort, quoi. Il est 20h, voilà. Et il y a tout ce temps de jeu, d'échange qui peut paraître indispensable, mais qui finalement n'est pas bon pour l'enfant. Excite l'enfant, du coup, il s'endort mal. Et vous le voyez, hein, les enfants que vous couchez trop tard sont des enfants qui ont du mal à s'endormir, qui s'endorment de manière agitée, qui se réveillent au bout d'une heure. Voilà, un enfant, et c'est valable pour la sieste, hein, pour les tout petits. Un enfant qui devrait se coucher vers 13h, 13h30, si vous ratez le coche et que vous le couchez à un quart d'heure trop tard, il ne s'endort plus. Donc, mais ça fait partie de toute cette hygiène de vie, encore une fois. Je termine juste là-dessus. Il faut juste comprendre qu'à partir du moment où vous avez décidé d'avoir un enfant, votre vie s'adapte à celle de l'enfant et ce n'est pas l'enfant qui s'adapte à votre vie. L'enfant, ce n'est pas un petit homme, c'est le petit de l'homme.
On va faire la pause là, ce n'est pas sur l'intérêt de la question, c'est sur le timing. Donc la pause, on reprend dans un quart d'heure. Ça ne laisse pas le temps d'une sieste, c'est 20 minutes, une demi-heure, une sieste.
Toute petite précision, pardon, pour le prochain café. Malheureusement, on s'est rendu compte que ça tombait le jour de l'arrivée du Beaujolais nouveau. Donc on n'aura pas à disposition cette salle. Et ce sera sans doute dans l'amphithéâtre de l'université rue Marcose. Donc même heure, par contre, que ce soir.